Actes 8, 29, ne le cherchez pas. Il y a une parole de l'Esprit à un homme, c'est Philippe. Actes 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et vous savez que Philippe va même accourir. Il a couru vers le char, il va se rendre auprès de cet Éthiopien, cet eunuque éthiopien. Avance, avance. Et j'ai envie de nous dire ce matin à tous, et il faudrait que je regarde tout le monde dans les yeux, avance. Et je me le dis à moi-même, je ne peux pas me regarder dans les yeux. Avance. Hein, ceux qui sont derrière, avancez. Alors pas physiquement, vous le comprenez. Avançons. Nous observons encore une fois dans ce récit, parmi tant d'autres récits bibliques, on va aller dans la parole tout à l'heure, que l'Esprit Saint peut conduire le disciple du Seigneur. Et nous savons que Jésus dira, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Avance. Avance dans cette écoute de la voix du Seigneur. Avançons dans l'écoute de la voix du Seigneur qui parfois va se manifester d'une manière différente de ce à quoi on s'attendrait, je dirais. Nous avons, comme le disait tout à l'heure Manu, c'est vrai, nous avons des fois des idées, des réflexions. On pense que Dieu peut intervenir comme ça, mais quelque part, on limite beaucoup l'action de Dieu. Dieu agit comme il entend. Vous savez que Tsophar va dire à Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'est-ce qui se passe? On n'y prend point garde. C'est-à-dire que des fois, on entend et on comprend, et des fois, il peut parler d'un autre côté, entre guillemets, non pas à l'opposé de ce qu'il veut dire, mais d'une autre manière. Et nous, comme on est fixé sur ça, on ne l'entend pas. Et je ne sais pas pour vous, je ne sais pas votre expérience. Moi, j'ai remarqué que souvent, Dieu m'a voulu me parler et que parfois, j'ai compris après qu'il était en train de me parler là, mais ce n'était pas le moment où j'avais capté ces réalités. Pourtant, cela a été réitéré par Pierre le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que dira Pierre alors qu'il est là après le baptême de l'Esprit? Nous savons qu'il y a l'onction de l'Esprit, l'Esprit qui est envoyé sur la terre, et il parle en langue. Ils sont là, ils manifestent dans le temple la gloire du Seigneur. Il y a là une révélation tout à fait spéciale. Tout le monde est particulièrement bouleversé. Et il va dire, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il dira, voilà, ce que vous entendez, c'est ce qui se passe et c'est en train de se réaliser. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se réalise, hein, l'onction de l'Esprit Saint. D'accord ? Alors, j'oublie à chaque fois que ce n'est pas un tactile, mon ordinateur. Je voudrais parler de la révélation. Je suis conscient que je suis très limité pour parler de ces choses-là, parce que la révélation divine est tellement large, extraordinaire. Alors, pendant un premier temps, je vais aborder ça d'une manière un peu cadrée, dans le sens précise, et après, je vais rentrer sur un autre chemin. Première chose, pour moi, il me semble, la révélation est nécessaire. La Bible dira dans Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Hein? Heureux s'ils observent la loi, le peuple. Hein? Ou bien, on pourrait le traduire ainsi, lorsqu'il n'y a pas de vision, et là c'est une vision spirituelle, hein, dans le sens de révélation, prophétie, c'est le terme exact, vision, révélation, prophétie, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. Et j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, avance et avançons les uns et les autres dans la révélation divine. Qu'est-ce que la révélation? C'est pas évident, des fois on comprend les termes, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Et c'est là où je vais aborder ça d'une manière un peu spéciale. Qu'est-ce que la révélation? Révéler, enlever le voile, on le sait. Hein? Mais c'est quoi? La révélation biblique, c'est un dévoilement, c'est un acte divin par lequel Dieu communique à l'homme les choses, les vérités qu'il ne pourrait pas comprendre et découvrir rien qu'en lisant de lui-même. C'est une action de Dieu dans le cœur de l'individu qui va lui ouvrir une compréhension qu'il ne peut pas comprendre qu'avec l'intellect. Dieu ne se comprend pas avec l'intellect, mais il se rencontre par une révélation de sa part pour chacun d'entre nous. Il y a une révélation qui est dite générale. Vous savez, la Bible dira, je vais passer les versets, mais vous êtes assez grands et tous pour aller chercher les versets, la Bible dit que Dieu nous parle par la nature. Et la nature, lorsqu'on est dans la nature et qu'on regarde, je sais pas, moi j'aime bien la montagne, quand on regarde la montagne, cette grandeur, c'est extraordinaire, Dieu parle. Dieu parle aussi par la providence. C'est-à-dire que des fois, dans certaines circonstances, alors même qu'on ne connaissait pas Dieu, il y a eu des choses où Dieu a comme pourvu, c'est une providence divine, d'ailleurs c'est un pléonasme, providence divine, mais bon, une providence. Là où on oublie un petit peu, c'est la préservation. Dieu, la révélation générale, c'est aussi la préservation. C'est quoi ? Regardez comment Dieu, depuis des siècles, maintient les nations, les individus, les choses, je dirais, en vie, quoi, dirons-nous, en action. Quand on voit qu'on regarde l'univers, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est astronomie, c'est astronomique, hein, c'est le cas de le dire, c'est extraordinaire. Mais on sait que si une planète variait dans son parcours, je ne trouve plus les termes ce matin, vous comprenez que ce serait le désastre dans le monde entier, dans l'univers entier. Et nous voyons que tout a été comme conçu, le divin horloger a tout mis en place, et il y a là une préservation. Et la Bible parle qu'il y aura un temps où le monde sera changé. Mais en attendant, il y a la préservation. Regardez le peuple d'Israël, depuis des siècles, a été meurtri, depuis l'an 70, c'est été fini. Plus d'Israël dans le sens géographiquement, dans la carte. Et voilà qu'en 68, ça revient, etc. Et ça, c'est Dieu qui préserve. C'est Dieu qui préserve. Regardez comment, dans la révélation générale, la conscience de l'homme est là pour lui dire ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Alors bien sûr, on y met des trucs dessus, là, on la chante un petit peu, parce qu'aujourd'hui la conscience est... Voilà, mais c'est quand même quelque chose qui nous fait, qui fait différence, parfois avec les animaux, bien sûr. Et là où il y a une impossibilité par la révélation générale, c'est qu'on ne peut pas découvrir le salut et la condamnation par la révélation générale. C'est-à-dire que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut découvrir le salut. La Bible révèle que, bien sûr, c'est la prédication de la croix est une folie, il a été dit, pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Alléluia, hein, la prédication de la croix. Et puis, il y a aussi, et c'est peut-être là où je vais axer mon temps de partage ce matin, il y a aussi la révélation spéciale ou spécifique, ce qu'on appelle les théophanies. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous voyez la Shekinah, vous savez ce que c'est, la colonne de feu et de nuée, hein, qui se déplaçait, c'était une révélation de Dieu pour le peuple, pour le conduire, et c'était visuel, c'était surprenant. Ça devait être quand même extraordinaire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui aimeraient la voir, la Shekinah, là ? Ouais, moi j'aurais aimé, hein, voir comment ça se passait, où c'est que ça allait, comment ça fonctionnait. Voilà. Il y avait aussi l'ange de l'Éternel, on en a parlé. Rappelez-vous, l'épée nue devant Jéricho. Et Josué, il dit, mais tu es avec nous ou contre nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on sait que c'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, l'Ancien Testament, probablement une théophanie de Jésus-Christ, une apparition, une révélation de Jésus-Christ sous une forme particulière. Les révélations spéciales, c'est aussi les miracles. Quand on prie pour quelqu'un et qu'il est guéri, alléluia ! C'est pas nous, c'est Dieu qui fait le miracle. Et là, c'est une révélation spéciale. Dieu va parler aussi par une prophétie, les dons spirituels. Et mes amis, surtout, ne perdons pas dans les temps de culte une réflexion, une ouverture d'esprit, dire écoutons la voix du Seigneur aussi, parce qu'il veut certainement nous parler. Et ce n'est pas des choses superflues ou dépassées. Dieu veut communiquer. Et des fois, il peut communiquer à quelqu'un dans votre esprit. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu une parole qui m'a percuté et ça m'a complètement surpris. Et en même temps, c'était percutant dans le sens, c'était doux, mais en même temps, c'était très fort. Et vous dites, waouh. Là, Dieu est en train de me parler. Et alors là-dedans, ça va vite. Je ne le dis pas, qu'est-ce que je dois faire, etc. On en reparlera tout à l'heure. Les anges aussi. La Bible parle qu'il y a des anges. Et ça aussi, c'est une révélation spéciale qui peut être là. Et bien aussi, l'Écriture. L'Écriture, vous savez que l'Écriture par elle-même, on peut lire, il y a des hommes qui lisent, etc. Des hommes et des femmes qui lisent la parole sans vraiment être touchés. Mais à un moment donné, il peut y avoir une révélation de Dieu. Le Logos devient Réma et c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. En fait, l'homme ne peut avoir une connaissance parfaite de Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui. Et ça, il faut se le rappeler. Je peux pas. Ne croyons pas que quand on parle à d'autres, ils vont pouvoir, en faisant des efforts, arriver à Dieu. Écoutez-moi, ça, je crois que c'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que bien sûr, encourageons-les à voir, à aller vers Dieu, mais croyons bien que le Seigneur va éclairer leur cœur et va toucher leur vie par sa grâce et sa puissance. Vous êtes avec moi, là ? Ouais, merci. D'ailleurs, Tsophar dira à Job, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu ? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Bon, ils étaient gentils, les copains de Job. Hein, ils me ressemblent un peu. Ça fait écho à ce que le prophète Esaïe va dire. Il va dire, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Hein, et vos voix, nos voix ne sont pas mes voix, etc. » dit l'Éternel. Hein. Alors, mes frères et sœurs, ça c'était juste un petit peu, je remettais un peu la notion de la révélation, parce que je voudrais aller un peu plus loin. Ouvrons-nous à la révélation divine. Ouvrons-nous à la révélation divine. Élargissons notre cœur. Ouvrons les oreilles de notre cœur. Quand la Bible dit aspirer aux dons spirituels, elle le dit pour qui ? Pour les anciens de l'Église ? Que pour les pasteurs. Pour les anciens de l'Église, non. Elle dit pour qui ? Pour chacun. Et oui, et j'encourage les personnes qui ont pu donner des dons spirituels ce matin, même si vous sentez des fois, on se dit, waouh, est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Vous l'avez fait, vous avez obéi au Seigneur, même si parfois on peut être maladroit, mais le Seigneur est celui qui dit, aspirez aux dons spirituels. Nous voulons avancer dans les voies de Dieu. Mais pour avancer, des fois, il faut aussi rechercher des choses qui peuvent nous échapper. On ne maîtrise pas, je ne dis pas qu'on ne maîtrise pas quand on est spirituel, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il n'y a pas de problème, on n'est pas en transe, il n'y a rien du tout. Mais il y a la présence de Dieu qui se manifeste, mes frères et sœurs. Alors, je vais demander à une sœur, notre sœur Josiane, qui m'a demandé si elle pouvait intervenir, et ça rejoint un petit peu certaines choses, je pense, ce matin.
Bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de spécial qui m'est arrivé il y a déjà un mois et demi, début avril. Alors, je voudrais commencer par vous lire un petit passage de Job. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups de glaive. Ce verset est vraiment devenu réel pour moi. Début avril, le Seigneur m'a donné un rêve et il m'a demandé de le partager à l'Église, mais je lui ai demandé plusieurs fois que je voulais vraiment qu'il me confirme que ce rêve était bien de lui, et pas de moi ou de mes pensées. Voilà. Et ce jeudi matin, ce jeudi, dans la réunion de prière, j'ai prié sur ce verset, et à la fin de la réunion, Jonathan a donné une prophétie parlant de la résistance de Gédéon. J'arrive pas à tenir... et du pas de foi qu'il lui avait demandé, et que Dieu parlait tantôt d'une manière et d'une autre. J'ai compris à ce moment-là que le Seigneur m'engageait à faire ce pas de foi et à partager mon rêve avec l'Église. Alors voilà, j'ai eu un rêve, il s'est déroulé en deux temps successivement. Dans le premier temps, je me suis vue dans un groupe d'évangélisation de rue, et au cours de cette évangélisation, nous avons rencontré un homme qui avait le bras droit qui était sec, et il était complètement déformé par un cancer. Et un participant du groupe s'est approché de cet homme, il a mis le bras de la personne sur sa poitrine, il a fermé les yeux, et quand il a eu fini de fermer les yeux, il a étendu le bras de cette personne, et le bras de cette personne était devenu sain, il était complètement guéri. Et dans mon rêve, je me suis réjouie d'avoir vu pour moi, c'était un miracle et c'était une guérison et je me suis réjouie. Et dans mon enthousiasme, j'en ai parlé à mon mari, toujours dans mon rêve, et lui n'a eu aucune réaction. Et je ne comprenais pas, et je ne comprenais pas pourquoi il ne réagissait pas, parce que moi j'étais tellement contente d'avoir vu ça, et ça m'a beaucoup interpellée. Et dans un deuxième temps, ensuite, le deuxième temps du rêve, c'était, j'étais dans une chambre d'hôtel. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une présence qui m'enveloppait de ses bras. C'était agréable et doux, et j'étais bien. Mais au fur et à mesure, cette présence est devenue de plus en plus pressante, oppressante, à tel point que je me sentais vraiment très, très mal. Et j'ai commencé à la repousser, mais j'arrivais pas. Plus je la repoussais, plus elle s'accrochait à moi. Et je ne comprenais pas dans mon rêve ce qui arrivait. Et je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive. Et je sentais que ça, c'est quelque chose qui ne venait pas de Dieu. J'ai repoussé cette présence de toutes mes forces et j'ai demandé au Seigneur, ben Seigneur, aide-moi. Et je lui ai demandé vraiment que le Seigneur intervienne et elle est sortie. J'ai demandé que vraiment cette présence, ben, elle s'enlève et j'ai crié à Dieu. Et à ce moment-là, cette présence, elle est partie et je me suis réveillée. Alors, je ne comprenais pas pourquoi je venais de voir ça et je lui ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi j'ai vécu cette expérience ? Et tout de suite, il m'a envoyé trois versets dans ma tête, Matthieu 7, Matthieu 24 et Apocalypse 3. Je vais vous les lire. Matthieu 27, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Et Matthieu 24, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et l'Apocalypse 3, 8, je connais tes œuvres. Voici, je sais que tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà, c'est ces versets que le Seigneur m'a montrés de suite après le rêve. Et le Seigneur m'a révélé que je n'avais pas assisté en fait à un miracle qui venait de lui, mais que c'était vraiment un miracle qui venait de Satan. J'ai réalisé combien cela pouvait être insidieux de se faire avoir par l'ambiance ou le spectaculaire. J'ai réalisé aussi comment on pouvait tous se tromper si on ne se restait pas attaché à sa parole. J'ai touché du doigt la séduction de Satan ce jour-là. J'ai réalisé que l'esprit était bien disposé, mais que la chair est faible. Et que l'ennemi de notre âme cherche qui il pourra détruire. Car les temps de la fin, c'est le moment, et ces temps sont comptés, et il va redoubler de vigueur. Mais le Seigneur nous a donné toutes les armes, et avec sa parole, nous pouvons tenir ferme. L'important, c'est de rester attaché à sa parole et de rester attaché au Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Ça m'a été très dur de le dire. J'ai attendu un mois et demi pour pouvoir vous en parler parce que vraiment, j'avais peur de le dire. Et je dis, Jonathan, par sa prédication, par sa prophétie, a fait que eh bien, ça m'a donné la force de pouvoir en parler. Voilà, et voilà, je voulais vous le transmettre.
Nous voyons bien que le Seigneur parle. La révélation, elle nous est donnée dans quel but ? C'est pas de savoir et d'être au-dessus des autres, de dire je suis plus spirituel. Mais les champs d'action de la révélation sont importants. C'est-à-dire que, par exemple, elle nous amène à être conscients de la réalité des derniers temps. La révélation de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu révèle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, elle nous donne l'occasion de comprendre. Et la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, etc. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Si beaucoup dans ce monde ne savent pas que le Seigneur revient, ils sont inconscients sur cette réalité, nous, enfants de Dieu, par la parole, on sait ces choses parce que Dieu nous les révèle. Et on sait que le Seigneur revient. Et on pourrait prendre plusieurs exemples. Mais je voudrais aller de suite à mon second point parce que j'ai l'impression que je vais être long. Je voudrais aller sur un autre aspect avant d'aller au second point. La révélation de Dieu nous est donnée pour également recevoir une partie de la connaissance de certaines situations. Vous savez que dans les dons de l'esprit, il y a la parole de sagesse, de connaissance, ce qu'on appelle les dons de révélation. Et vous savez, comme plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, je vous donne un exemple que vous connaissez. Un jour, les Syriens sont en guerre contre Israël et ils veulent attaquer Israël. Et à chaque fois qu'ils projettent quelque chose, Élisée, le prophète d'Israël, dit au roi et à l'armée d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit ». Et en effet, c'est comme si Dieu dévoilait les plans, la stratégie de l'ennemi au prophète. Et le prophète le dit, le roi en tient compte, le roi d'Israël, et ils sont épargnés. Et il nous est dit, cela n'arrive pas seulement une ou deux fois, comme pour dire, c'est arrivé plein d'autres fois. Tellement que le roi en face, le roi syrien Ben-Hadad, il dit, oh, c'est qui dans le traître ? Et puis il y en a un, il dit, non, il n'y a pas de traître, c'est le prophète Élisée là-bas. Alors lui, il dit, mais envoyez-le, on va le chercher, on va l'attraper, on va le faire prisonnier. Ils envoient une troupe, et vous savez que le matin, le serviteur d'Élisée ouvre les fenêtres, et puis, oh, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit toute l'armée syrienne autour de la maison, et bien sûr, il est complètement perturbé. Il va implorer, il va réveiller le prophète, ou est-ce qu'il va interpeller le prophète ? Je ne sais pas s'il dormait. Et il va lui dire certaines choses. Et vous savez que le prophète va dire, il va prier, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Parce que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. La révélation est nécessaire dans quelques circonstances de la vie d'une église, de la vie de notre vie. Parce que parfois, il y a comme une peur, une terreur sur certaines situations. Et Dieu révèle toute sa gloire et dit, mais regarde, je suis avec toi. Et ici, le prophète va pouvoir être, non seulement le serviteur va voir les chars de Dieu, mais ensuite, l'armée vient quand même, parce que là, c'est, vous voyez, Dieu pourrait dérouter l'armée, non ? L'armée vient, et le prophète prie encore pour qu'il soit comme aveuglé. Et ils sont aveuglés, et toute l'armée, il va les amener dans la ville de Samarie, là-bas, et à Samarie, au lieu de les détruire, ils vont leur donner à manger, comme disait la loi d'ailleurs. Je relisais la loi de l'Ancien Testament cette semaine, et il y a des passages où il est dit que ton ennemi, tu lui donnes à manger, etc., tu dois faire ceci, cela. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donné à toute l'armée syrienne de quoi manger, et après ils sont repartis chez eux, ils ont été tranquilles pendant un moment. Vous voyez que là il y a eu comme une révélation de ce qui se passait, et il y en aurait d'autres qu'on pourrait mettre en avant. On n'est certainement pas des prophètes de l'Ancien Testament, mais nous sommes des disciples de Jésus, et nous pouvons recevoir quelques communications du Saint-Esprit, dit le Nouveau Testament. C'est Jésus qui dira ceci, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Je dis ça pourquoi ? Parce que je ne voudrais pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on dise « J'aime Dieu, mais Dieu presque, on ne lui donne pas trop de permission de venir jusqu'à nous et parler à notre cœur. » Ou bien que pendant la prédication ou que quand je fais mon culte personnel. Et ça, c'est dangereux, à mon avis, c'est pas bien. Parce que Dieu ne veut pas nous avoir que quelques secondes dans l'année, ou quelques minutes ou quelques heures l'année, il veut parler à nos cœurs. Il veut être près de nous. Il se plaît à se révéler. L'apôtre Paul dira dans son épilogue de l'Épître aux Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication du Saint-Esprit, la communion, la relation, koinonia. Hein. Alors, déduire que face à certaines situations, pour nous, face à certains événements de notre vie, nous devons peut-être faire silence et écouter plutôt le Seigneur et permettons à Dieu de nous parler. Hein ? Et vous savez, mes brebis entendent ma voix, dira le Seigneur, je les connais et elles me suivent. Amen. Je les connais et elles me suivent. Alors, par quel moyen peut-on recevoir ces révélations, sa parole, hein, le Logos qui devient Réma, un don spirituel, d'où l'importance d'être ensemble à l'église locale, parce qu'il peut y avoir un don spirituel, il peut y avoir un songe aussi, ça c'est personnel, chez soi, il peut y avoir quelque chose de profond qui se passe. On sait que les songes Daniel, Joseph et plusieurs dans l'Ancien Testament, on connaît, seront l'objet de la main du Seigneur et de révélation du Seigneur. Voilà. Il nous est dit, que faire donc, frères, lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? que tout se fasse pour l'édification. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il y a eu un don en langue, s'il vous plaît, attendez qu'il y ait une interprétation qui soit donnée. Pourquoi ? Parce que si Dieu permet qu'il y ait un don en langue, il veut nous parler. Et peut-être c'est bon de l'entendre d'une manière ou d'une autre. Par des visions spirituelles, je refaisais un peu le listing de tous ceux de l'Ancien Testament qui ont reçu une vision de Dieu, de la part de Dieu pour certaines situations. Il y en a beaucoup. Ça commence par Abraham et ça va à Samuel, Ézéchiel, et tant d'autres. Assez impressionnant. Alors, je vais m'arrêter surtout sur ce second aspect. Je saute plein de passages. La révélation implique d'avoir, et c'est là où on va lire les passages, la révélation implique d'avoir toujours soif et d'aller de l'avant. Mes frères et sœurs, la soif naturelle, on sait, c'est un système chez nous, dans notre corps, qui est là pour... c'est une sensation du besoin de boire et ça caractérise un manque d'eau dans l'organisme. Et la soif est un mécanisme de régulation neuro-endocrinien, c'est pas moi qui l'ai inventé ça, et qui intervient dans le comportement de boisson en alarmant l'organisme afin qu'il réponde à la nécessité de s'abreuver. Ça, c'est comment on a été créé. Imaginez qu'on n'ait pas de sensation de soif, on serait tous morts déshydratés. Moi, je bois beaucoup de l'eau. Avoir soif spirituellement parlant, comment ça marche? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas rentrer plus dans la raison, comment ça peut se programmer, comment ça peut se stimuler. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, veut nous attirer à lui, et veut nous amener dans une intimité plus profonde. C'est pour ça que je dis avance et avançons. C'est pour ça que je crois que la parole de Dieu nous dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. » On sait que pour le salut, venez acheter sans payer, etc. Venez boire. On sait, il y a plein de versets qui parlent de la soif. Et avoir soif, c'est disposer son cœur pour recevoir Dieu. C'est une attitude de foi dans la continuité et non seulement une foi de temps à autre. C'est-à-dire, c'est un soupir permanent après Dieu. Le fait de chercher Dieu. Et de dire, Seigneur, révèle-toi encore plus à moi. C'est se rendre disponible et obéir à Dieu. Alors, il y a deux personnages, et je vais m'arrêter là-dessus, deux personnages qui ont eu soif dans la parole. La première, c'est dans le livre de la Genèse. Regarde avec moi. Le premier personnage que je veux soulever ce matin, c'est Genèse chapitre 16. Et on va voir leur attitude. Nous sommes là dans un temps où Agar, la servante égyptienne, de Sarah ou Sarai va aller vers Abraham et c'est Sarah qui l'a amené à faire ainsi et Agar va voir bien sûr Abraham va aller vers Agar il va avoir une procréation d'Ismaël et maintenant Agar est enceinte et voilà que comme elle est enceinte il regarde Sarah sa maîtresse avec mépris un peu de moquerie surtout qu'à l'époque être stérile c'était une malédiction, considérée comme une malédiction. Et dans Genèse 16, verset 7, il nous est dit, verset 6, pardon, « Abraham répondit à Sarai, ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme tu trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où tu vas ? Où vas-tu, pardon ? Elle répondit, « J'ai pris la fuite, loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse, humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra pas la compter, tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, et sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. » Elle appela l'Éternel, qui lui avait parlé du nom de « Atta El Roi. » Car se dit-elle, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on appelait ce puits le puits de la Haï, Roi. Il est entre Kadesh et Bered. Amen. S'arrête. Ici, cette femme, il y a une révélation qui se passe dans sa vie assez particulière. Alors qu'elle est maltraitée par Sarai, elle s'enfuit. Agar, ça signifie fuir. Elle s'enfuit, et parce que Abraham le permet, elle s'enfuit. Et alors qu'elle est là, elle est près de la source d'eau, Dieu l'interpelle. Il y a une révélation. Dites-moi, à l'époque, les révélations et la manifestation de Dieu n'étaient pas régulières envers les hommes. Pas beaucoup ont vu la présence de Dieu manifeste. Et ici, cette femme, cette étrangère, dirons-nous, qui n'était pas issue de la postérité d'Abraham, mais qui était associée, on voit que cette femme a une révélation quelque part de Dieu, et tellement qu'elle appelle le lieu « Atta El Roui ». Car ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ? Ou bien c'est l'Éternel Dieu qui me voit. Elle a conscience de ça. Et on pourrait dire c'est formidable. Elle a même une promesse sur une postérité. Mes amis, elle a une certaine révélation. Elle est percutée par cette révélation. C'est formidable. Hein ? Et c'est vraiment bien. Mais vous savez que 15 ans après, alors qu'Isaac était sevré, Sarah voit le fils d'Agar, Ismaël, qui est adolescent, on suppose qu'il a 13 ans, rire. Donc elle est en colère, Sarah, encore une fois, et elle demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël, de les faire partir. Et on va aller dans Genèse 21, toujours pour Agar, voyons voir cette réalité, vous allez comprendre où je veux en venir, peut-être que vous n'avez pas compris encore. C'est parce que je ne suis pas très clair ce matin, mais verset 21-14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau, et fit boire le garçon. Amen. Rappelez-vous, 15 ans à peu près après, alors qu'Isaac est sevré, Sarah voit cet ado Ismaël rire, elle demande à Abraham de le chasser, et voici que le lendemain, maintenant, Abraham il donne deux pains, il donne l'outre d'eau, et tu t'en vas. Tu t'en vas avec ton fils. Elle s'égara dans le désert de Beersheba, elle sanglote, et vous l'avez lu avec moi, elle est dans une situation compliquée. Mais là, moi je suis surpris. Parce que n'avait-elle pas 15 ans auparavant entendu la voix de celui qui est l'auteur de la vie ? N'avait-elle pas compris que Dieu la voyait ? Et là, dans la situation 15 ans après, presque similaire, encore égarée, encore dans les déserts, elle se retrouve dans une situation où elle aurait pu implorer Dieu. Elle ne le fait pas. Elle se lamente. Elle sanglote. Pourquoi je parle de ça ? Pourquoi n'a-t-elle pas recherché Dieu ? Qui s'était si merveilleusement manifesté 15 ans auparavant. J'ai envie de dire, ne soyons pas des chrétiens qui ont vécu d'incroyables expériences avec Dieu et qui, des années après, n'ont pas compris encore qui est Dieu, en partie, ou oublient si facilement que Dieu s'était révélé à eux auparavant. Ne devenons pas comme Agar, et je ne critique pas Agar, cette femme-là, mais la manière de réagir. Il n'y a plus de soif spirituelle. C'est vrai que le désert, c'est vrai qu'il n'y a plus à boire, etc. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de la soif naturelle, là. Je parle de la soif. Elle n'avait pas, pendant ces 15 années, on ne voit pas Agar chercher Dieu. En disant, elle m'a parlé, mais peut-être il pourrait me reparler. Peut-être il y a quelque chose pour moi. On voit Agar qui fait sa vie. Elle se sent victime de sa maîtresse, ce qui est vrai. Elle reste dans son état. Mes amis, prenons pas exemple sur Agar. Parce qu'elle n'avait pas soif spirituellement. Elle n'avait pas soif, je ne la critique pas. Hein. Ça va, là, oui, vous êtes avec moi, vous comprenez ce que je veux dire. Ayons soif du Dieu vivant. Pourtant, Dieu lui avait donné la promesse qu'il y aurait une descendance. Pourtant, Dieu lui avait donné tant de choses. Et ça, mon cœur, quand je parle de ça, mon cœur est bouleversé dans le sens où je pense parfois à notre inconscience si on ne fait pas attention. Dieu se révèle à nous et on perdrait du temps. Bon, il nous s'est révélé, c'est formidable, ah, c'est super, Dieu m'a béni, puis on continue sa vie comme si rien n'était. Et 15 ans après, je vais mourir, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et entre-temps, alors je ne juge pas, parce que peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé, la Bible ne nous relate rien concernant Agar, mais il nous semblerait, d'après sa manière de faire, qu'elle n'ait pas cherché à aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Et mes amis, nous avons la parole, nous avons bien plus qu'Agar, nous avons une compréhension bien plus grande parce que Dieu nous a éclairés et a permis que nous soyons dans ce temps-là. Mais attention que nous ne soyons pas comme Agar, où on a juste notre train-train et on oublie de chercher l'Éternel. Dieu nous demande et nous invite à le chercher. Puis, un autre exemple, dans le livre des Juges, chapitre 15, une autre personne qui a soif, de soif naturelle, 15 verset 8, non, 15, pardon, oui, 15 verset 8, et on voit ici, j'ai dû me tromper de passage, regarde, non, non. Ah oui, mais je suis dans Josué. Juge, chapitre 15, verset 8. Ici, nous voyons que Samson, verset 8, il est bâti rudement en plate couture, puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Donc ici, il y a encore des noises, on a fait tout un tas de choses. Il se retire, il va dans la grotte d'Étam. Et puis, on va lire un peu plus loin, au verset 14, lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins poussèrent des clameurs à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens se dénouèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main et la prit. Avec elle, il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec la mâchoire de l'âne, un âne parmi les ânes, avec la mâchoire de l'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta la mâchoire, et l'on appela ce lieu Rama Lehi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as accordé par la main de ton serviteur ce grand salut, et maintenant mourrai-je de soif, tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Lehi, et il en sortit de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et revint à la vie. C'est là qu'on a appelé cette source Ein Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Lehi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Lui, voilà, on connaît, on a lu l'histoire. Lui avait soif naturellement, mais contrairement à Agar, il invoque l'Éternel. C'est vrai que Samson, on pourrait dire certaines choses qu'il a à côté des choses à côté desquelles il est passé, pardon, où il n'a pas suivi ce que Dieu avait dit. Ça, c'est vrai, on pourrait lister, mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse ce matin. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il se retrouve lui aussi en situation compliquée, en situation de soif, c'est naturel. Mais on voit ici que Samson, il connaît, il cherche à communiquer, à communier avec Dieu. C'est maladroitement, certes, mais il a cette intention. Et j'ai envie de dire, as-tu soif, mon frère, ma sœur, du Dieu très haut? As-tu vraiment soif de cette relation? Es-tu dans cette attitude de cœur ou bien es-tu tellement occupé que tu ne vois pas pourquoi avoir soif de Dieu? Le problème, c'est qu'on est tellement pris dans la vie aujourd'hui, on a des téléphones, des ordinateurs, etc. On est capable de faire, on parlait à ma femme l'autre jour, on parlait de quand on fait des réunions en Zoom, on est capable de faire plein de choses en même temps. Bon, des réunions professionnelles, pas les réunions d'église. Hein. Mais les réunions professionnelles, vous avez les gens, ils sont là, mais vous ne savez pas s'ils sont là vraiment. Et puis ils font autre chose, et puis ils répondent au téléphone, et puis ils écrivent, et puis ils lisent leur mail, et puis ils checkent ceci, cela. Pourquoi on est capable de faire plein de choses à la fois? Mais on est pris là-dedans, là. C'est pris tout, complet. Il n'y a pas de temps d'arrêt pratiquement, à part quand vous fermez les yeux et que vous dormez. Et encore, là-dedans, ça crapahute. Hein? Es-tu dans cette attitude de cœur ou bien es-tu tellement occupé que tu ne vois pas pourquoi avoir soif de Dieu? Es-tu inconscient des enjeux spirituels dans le monde invisible? Vous savez, il y a des psaumes qui disent ceci, c'est les fils de Corée, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Alléluia. Est-ce que ton âme, ne répondez pas, est-ce que mon âme a soif du Dieu vivant? Un autre psaume, psaume 143, verset 6, « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Psaume 63, « Lorsqu'il était dans le désert de Juda, c'est David, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Psaume 84, verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le problème, contrairement à la soif naturelle, c'est que nous, on n'a pas dans notre cœur quelque chose qui nous dit « tu te faut boire ». Alors comment ça se passe? Comment je sais quand est-ce qu'il faut que je boive vraiment, que je me laisse inonder, avoir soif de Dieu? Mais quand on commence à perdre l'envie de lire la parole, quand nous faisons tout ce que nous avons à faire en oubliant de le chercher, priorité à moi, quand je vais à l'église et ça devient une contrainte. Alors oui, des fois il y a des jours, on a la tête, j'appelle ça en foisse, c'est dans tous les sens, on ne sait pas où on habite, on se lève, on est comme des robots, ça arrive. Mais quand c'est permanent, que quand je vais écouter la parole, au lieu de considérer que c'est un privilège extraordinaire, je suis libre, contrairement à certains pays où ils ne peuvent pas se réunir, et que ça prouve que peut-être là, il y a un curseur qui me dit, un voyant qui me dit, regarde, ta soif spirituelle est en train de diminuer. Quand notre vieil homme pointe le bout de son nez trop souvent, vous savez, le vieil homme là, ancien carayol, là, il est pénible, monsieur. Quand les pensées sont plutôt sombres, dures, excessives. Quand tu commences à être envieux, jaloux, amer, tout ça, c'est des symptômes que tu as soif spirituellement, mais tu n'en aperçois pas si tu ne fais pas attention. Quand tes propos sont de plus en plus agressifs, alors bien sûr qu'il y a des circonstances qui font que, hein, des fois, et je parle en premier, je me sens le premier concerné. Hein, quand on est amer et cynique, ça veut dire que quelque part, là, ta soif spirituelle, oh, le voyant s'allume, tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin de chercher. Et on est dans ce monde, on ne vit pas en dehors de ce monde. Donc, obligatoirement, inévitablement, tu auras une interaction et des fois, tu seras pris. Alors, comment favoriser cette soif? Et je termine en étant honnête avec soi-même. Ça a été dit par un don spirituel. Lutte contre les ténèbres, mais contre ton moi. Ton moi dessèche souvent ton cœur. C'est pas vrai? Moi, le mien, il dessèche. Bon, moi, si je ne fais pas attention, il dessèche mon cœur. Je vous donne un exemple. Et je vais conclure ainsi. Un exemple d'attitude qui assèche le cœur du chrétien comme une plante sans eau qui va se flétrir sur son pied. Quand on s'apitoie sur soi, s'apitoyer sur soi, c'est quoi? C'est avoir pitié de soi au point de s'isoler pour prendre soin de soi. Moi, c'est comme ça que je mets la définition. Hein. C'est-à-dire que... En faisant cela, quelque part, quand je m'apitoie sur moi, parce que peut-être je suis victime d'injustice, etc., je vais m'isoler et vais me prendre soin de moi. Donc je vais faire, voilà. Mais quelque part, c'est moi au centre, là, et je m'occupe de moi. Hein, et voilà. Et en faisant cela, je m'occupe de ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu les frères et sœurs. Dieu a voulu l'Église. Des fois, c'est dur. Des fois, il faut supporter les pasteurs, les anciens, tout le monde. Je mets tout le monde comme ça. Des fois, il faut supporter. Mais le Seigneur a voulu, non pas pour nous blesser, ça peut arriver, mais pour nous exhorter, nous encourager. Et pour sortir justement de l'apitoiement sur soi. Excusez-moi, je pense à quelque chose, à une situation, à des personnes que j'ai connues, qui sont restées fermées dans l'apitoiement sur eux-mêmes. Avoir pitié de soi, c'est comme celui, celle qui s'est gravement blessé et qui ne veut pas aller consulter un médecin. Hein? Pour qu'on lui prodigue de bons soins. Il souffre, il gémit, il est peut-être en colère contre quelqu'un, mais en même temps, il ne veut pas bouger d'un iota. Est-ce que Agar s'apitoyait-elle sur son sort? Je ne sais pas. Mais elle pleurait, elle était désespérée par la situation. Et pourtant, Dieu s'était révélé à elle. Et je crois que, mes amis, si tu t'apitoies et que tu es toujours en train de dire « je suis victime d'une injustice », si tu penses que tu es victime, tu resteras victime toute ta vie. Je ne veux pas être prophète. Parce que être victime, c'est se dédouaner de « je vais pouvoir changer ». Mais si tu acceptes « je suis victime », oui, j'ai été victime, oui. Mais Seigneur, je veux marcher de l'avant et je veux aller de l'avant, je vais pouvoir sortir de ce fonctionnement-là. Et je vais pouvoir aller de l'avant. Alors oui, si tu veux avancer, arrête d'être victime. Je ne dis pas que ce que tu as vécu n'est pas grave, etc. Je ne parle pas de ça. C'est une réalité, peut-être c'était très dur, etc. On n'est pas là pour juger, pour mesurer. Par contre, tu ne peux pas rester victime. Si tu restes victime, tu n'iras pas de l'avant, tu ne pourras pas avancer. Et ta soif de Dieu se résumera à dire « bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ». Mais ce n'est pas ce que Dieu veut seulement. Dieu veut que je vienne vers lui pour que je le cherche de tout mon cœur. Alors la révélation, elle est nécessaire pour notre vie. La révélation, elle est indispensable. Et je me suis peut-être exprimé d'une certaine manière, mais il y a plein de choses qui, je voudrais vous dire, que je crois que Dieu veut parler bien plus à nos cœurs. Et je suis convaincu que si nous ouvrons bien plus notre cœur à Dieu, Dieu parlera à notre cœur. Mais est-ce que j'ai soif ? Est-ce que j'ai soif ? Est-ce que je le veux ? Comme quand la Bible dit « aspirer aux dons spirituels », je ne veux pas mesurer et quantifier ce matin, mais combien sont rentrés ici ce matin en disant « Seigneur, peut-être tu veux te servir de moi et je aspire à te servir. Et je vais aspirer à l'exercice des dons spirituels. Je attendrai et je me rendrai disponible. Maintenant, si tu le fais, j'obéirai. Si tu ne veux pas te servir de moi, sers-toi de quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, je me voici. » Est-ce qu'on l'a fait ? Ne répondez pas. Est-ce que je viens de cette attitude du cœur ? Si tu ne viens pas dans cette attitude du cœur, ne te culpabilise pas. Mais je t'encourage à dire, ouvre ton cœur. Et que vous soyez adolescent, que vous soyez adulte, que vous soyez vieillard, ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. J'avais plein de choses à dire, je ne les dis pas, ce n'est pas le passé de temps, mais par contre, je crois que le Seigneur veut parler à notre cœur. On va courber nos fronts, on va prier. La scène aussi, maintenant, et je pensais à ce verset qui dit ceci, juste un verset. Toujours à la Pentecôte, Pierre qui s'adresse au peuple. Que toute la maison d'Israël, j'ai envie de dire que tous les chrétiens d'Albi, sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On pourrait décortiquer tous les noms en signifiant toute l'œuvre de Jésus, mais nous savons en qui nous croyons. Nous te rendons grâce, notre Père. Parce que non seulement tu nous as réconciliés avec toi, ce qui est extraordinaire par Jésus-Christ, tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Tu veux que nous ayons la vie en abondance. Et tu t'es abaissé jusqu'à nous en mourant sur cette croix. Tu t'es humilié, tu as été brisé comme il a été lu tout à l'heure. Tu as été celui qui a été mis au rang des malfaiteurs pour chacun d'entre nous. Et si ce matin on peut regarder au trône de la grâce, si ce matin on peut s'approcher de toi, notre Père, c'est parce que nous sommes conscients que tu as tout accompli par ton Fils pour chacun d'entre nous. Aussi, nous prenons ce pain avec assurance, sachant que tu es celui qui nous a donné la vie et nous la donne aujourd'hui encore. À toi la gloire. Prenez le pain si vous l'avez.